Merci Johan, son équipe, pour ces beaux chants de louange. Et bon matin à vous tous. Et comme ça a été déjà dit, et je répète, pour les mamans, une très bonne fête des mères. Alors je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et trouver le livre du prophète Samuel. Samuel chapitre 1er. Et vous savez, la fête des mères est une journée tout à fait spéciale et une occasion par excellence de mettre en pratique Exode chapitre 20 au verset 12, « Honore ton père et ta mère ». Et on nous dit que c'est la journée où le plus d'appels téléphoniques interurbains et outre-mer sont enregistrés. Et ce matin, si vous n'avez pas encore appelé votre maman, je vous encourage de le faire. Alors, on nous raconte l'histoire d'un fils qui avait fait fortune et qui voulait faire quelque chose de spécial pour sa mère lors de la fête des mères. Alors, il est allé à une animalerie et là, il a vu un oiseau spécial. Spécial parce que il pouvait siffler le cantique « Amazing Grace »,« Grâce infinie ». Et il pouvait aussi réciter le 23e psaume « L'Éternel est mon berger ». Alors le prix, 3 000 $. Mais pour le fils, c'était rien, il était riche. Il n'y avait rien de trop beau ou de trop cher pour sa mère, qui en passant était en train de devenir un peu sénile. Alors, il a acheté l'oiseau, il l'a fait livrer à sa mère, et lors de la fête des mères, comme un bon garçon, il appelait sa maman et lui a demandé comment elle avait aimé l'oiseau qu'il lui avait envoyé. Alors, elle a dit, « Oh, où l'avais-tu trouvé? Il était tout à fait délicieux. Mon fils, un gros merci. » Abraham Lincoln a dit ceci, l'ancien président des États-Unis. Celui ou celle qui a une mère pieuse pour mère ne peut être pauvre. Et il a aussi dit, je me souviens des prières de ma mère. Elles m'ont suivi, elles se sont attachées à moi. Tout ce que je suis, tout ce que j'espère être, je le dois à ma mère. Et on ajouterait aussi, nous les croyants, au Seigneur aussi bien sûr. Alors, vous savez, au cours de l'histoire, il y a plusieurs mères qui ont eu justement un très grand impact dans la vie de leur fils et de leur fille. Et la Bible aussi nous en relate quelques-unes. On pense à Jochebed, la mère de Moïse, qui l'a élevée avant qu'elle a présenté justement la fille de Pharaon. Et tout un enseignement qu'on lui a donné. On a Eunice aussi, la mère de Timothée, où l'apôtre Paul dit simplement qu'elle avait enseigné la parole de Dieu dès son enfance. On nous dit aussi que Monica, c'était la mère de saint Augustin, qui, dans les prières, l'a amenée au pied de la croix. Quand lui, il brassait, il ne voulait rien savoir du Seigneur, c'est une femme qui s'est mise à genoux, qui a prié, et j'en passe. Alors ce matin, j'aimerais considérer avec vous une autre femme, Anne, une femme pieuse. Et j'aimerais aussi nous poser la question, quel impact peut-elle avoir pour nous dans nos vies aujourd'hui en 2014? Quelles leçons pouvons-nous apprendre d'Anne? Et nous allons lire notre texte ce matin, 1 Samuel chapitre 1er. Alors il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Elihu, fils de Tohu, fils de Zaph, Éphratien. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Et là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile, et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péninnah la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait point. Canas, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu et disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est de l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Il reprit la parole et dit, « Va en paix. » Et que le Dieu de l'Israël exauce la prière que tu lui adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut sa femme, Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour l'accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle a dit à son mari, lorsque l'enfant sera sauvé, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkanah, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sauvé. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta, elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et un outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Et Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternèrent là devant l'Éternel. » Chapitre 2, juste le premier verset. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Alors voilà notre texte ce matin, et j'aimerais considérer avec vous quelques leçons importantes que cette femme pieuse Anne nous enseigne. Alors tout d'abord, si elle était ici ce matin, étant la femme pieuse qu'elle était, elle nous dirait sans doute, apportez vos fardeaux au Seigneur. Apportez vos fardeaux au Seigneur. Regardez votre texte encore au verset 9 pour le contexte. Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Et verset 10, regardez bien. L'amertume dans l'âme, elle fait croire, elle pria l'Éternel et elle versa des pleurs. Et que dit-elle au verset 15? Je suis une femme qui souffre dans son corps, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Voilà Anne, une femme qui a le cœur brisé. Une femme qui vivait une grosse déception. Une femme qui souffre. Une femme qui portait un lourd fardeau, mais que fait-elle? Elle apporte au Seigneur. Et j'aimerais rapidement vous donner quatre aspects justement de ce fardeau qu'elle portait. Tout d'abord, elle n'a pas d'enfant. Et n'est pas aussi incapable d'en avoir. Et à l'époque, dans la culture juive, cela signifiait sans doute pour les juifs que la personne subissait soit un jugement, une malédiction de la part de Dieu. Parce que Dieu avait promis à Israël, son peuple terrestre, il a dit, les femmes, tu seras bénie plus que tous les autres peuples, en parlant Israël, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Alors on peut comprendre le rejet que cette femme, justement, dans cette culture et à cette époque, que cette femme vivait. Deuxièmement, il y avait aussi la concurrence, je l'appelle Pénina, madame méchante. Elle qui voyait justement cette femme dans la souffrance, et au lieu de compatir avec elle, au lieu de l'encourager, elle faisait le contraire. Elle vexait jusqu'au point que Anne versait des pleurs et elle était vraiment peinée. Elle tournait justement, comme on dit, là, elle tournait le fer dans la plaie pour le porter justement à s'irriter, à se moquer d'elle. Il y avait aussi son conjoint, M. Elkana, que j'appelle M. Solution à tout, un homme tout à fait déconnecté de la réalité. Il va s'offrir lui-même comme la solution à sa problématique et va lui dire, hein, c'est quoi le problème là? Moi je suis là, je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils. Et la réponse, on lui dirait, Alcana pantoute, monsieur insensible, tu ne sais pas que quand une femme souffre, ce n'est pas nécessairement qu'on cherche une solution. Les femmes, vous savez cela. Quand une femme, nous les hommes, il faut toujours avoir cette réflexe parce que nous, on cherche toujours de donner la solution. Mais souvent, quand une femme partage quelque chose avec un mari, c'est parce qu'elle cherche de l'empathie. Elle cherche justement la sympathie. Et lui, non. Il y a une solution toute cuite. C'est ça qu'il te faut. Puis c'est moi, je suis là. Et aussi, il y a le conducteur Élie, le berger en Israël, le souverain sacrificateur, cet homme qui aurait dû consoler cette brebis qui souffrait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il soupçonne le mal et il va la blaster, comme on dit en bon québécois, puis ils vont la traiter comme une robineuse. Ah, tiens, fais passer ton vin. Donc, écoute, tu étais ivre, et ainsi de suite. Alors, Anne se trouve dans une condition extrêmement difficile. Elle porte un lourd fardeau, mais elle sait quoi faire avec. Elle va l'apporter à Dieu. C'est une femme pieuse qui va mettre en pratique justement cette parole que quand on est dans justement des situations difficiles, le psalmiste va dire ceci, « Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit dans ma faveur. » Et c'est ce que Anne fait. Elle va devant l'Éternel, elle va répandre son âme. Et aussi, nous avons deux autres beaux textes dans psaume 86 au verset 6. « L'Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de la détresse. » Et aussi dans 1 Pierre 5:7, nous sommes exhortés, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et comme ça a été mentionné pendant la période de louange, je le ramène aussi, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre ce matin. Peut-être quelques-uns ici ce matin vous portez justement un lourd fardeau. Peut-être comme Anne vous souffrez. Peut-être pour vous la femme, la fête des mères n'est pas une bonne journée. Parce que votre mère n'est plus de ce monde et le vide se fait sentir encore. Il se peut aussi que vous pensez à votre mère et vous avez des mauvais souvenirs d'elle. Nous sommes dans un monde imparfait et nous sommes aussi des êtres imparfaits. Ou encore, vous avez voulu être mère et cela n'était pas possible. Ou encore, vous êtes mère et vous sentez justement inadéquate. Ou bien vous avez élevé des enfants et là vous les voyez loin du Seigneur dans le monde et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait qui était de correct? ou peut-être vos enfants ne vous contacteront pas aujourd'hui. Qu'importe, vous portez un fardeau. Mais alors, qu'importe la situation, nous avons justement Anne qui nous donne cette solution. Amenez vos fardeaux au Seigneur. Et vous savez, on pourrait poser la question, qu'est-ce que ça va changer donc, si j'amène mon fardeau au Seigneur? Qu'est-ce que ça va changer si je dépose cette requête devant le Seigneur? Mais si on regarde la prière d'Anne, on voit des incitations, des choses importantes dans sa prière qui nous encouragent, même dans la tempête et donc quand on porte des fardeaux, de les amener au Seigneur. Alors tout d'abord dans sa prière, au verset 11, elle va appeler Dieu l'Éternel des armées. Quel beau titre! Dieu, tu es le chef des armées, l'armée des anges, l'armée des rachetés. Tu es le Dieu, bref, qui est souverain, parfaitement en contrôle de chaque situation. Et je sais que je te peux faire confiance. Éternel des armées, je plaide ma cause devant toi, parce que tu es souverain. Deuxièmement, on va l'appeler... comme je dis, Dieu est en contrôle. Elle va aussi aller vers Dieu et démontrer qu'elle sait que Dieu est un Dieu qui est compatissant. Elle va lui dire, si tu daignes regarder l'affection de ta servante. Et laissez-moi vous dire que ça, c'est une requête qui ne laissera pas Dieu indifférent. Parce que notre Dieu, la parole de Dieu nous dit en Psaume 116, verset 5, est plein de compassion. Alors même si elle ne reçoit pas cette compassion de la part de Pénina, ni de la part de son mari Elkana, ni d'Élie, elle sait d'où elle peut la trouver, où est-ce qu'elle peut trouver cette compassion auprès de son Dieu. Dieu, notre Dieu, est plein de compassion. Et vous savez, le texte, ces beaux textes dans la parole de Dieu, Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il peut compatir à nos faiblesses. Alors, Anne voit tous ces beaux attributs auprès de Dieu. Troisièmement aussi, elle va avec son fardeau auprès du Seigneur parce qu'elle sait que Dieu est tout puissant. Si tu donnes à ta servante une fille. Seigneur, tu peux changer cette situation. Tu as la puissance de le faire, mais je suis ta servante. Je ne donne pas d'ordre. Je me vois comme ton esclave et que ta volonté se fasse, mais je sais que tu peux m'aider. Qu'est-ce que je peux vous dire ce matin? Vous avez des fardeaux ce matin. Apportez-les à Dieu parce qu'il est en contrôle. Il est compatissant. Il est puissant, il peut changer la situation. Mais juste une dernière remarque. Vous savez, on peut apporter nos fardeaux au Seigneur, et peut-être quelques-uns, vous avez apporté vos fardeaux au Seigneur, et vous dites que Dieu ne change pas la situation. Mais vous savez une chose, Dieu aussi, il peut vous changer. Parce que souvent, le plan de Dieu, ce n'est pas simplement de changer la situation, mais c'est à travers cette situation pénible, c'est de vous façonner, nous façonner à l'image du Seigneur Jésus-Christ et de nous changer de gloire en gloire, justement pour sa gloire. Et Dieu, dans sa souveraineté et dans sa sagesse, laisse souvent une situation perdurer parce qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus glorieux en vue, c'est que nous soyons à l'image de son Fils. Il peut nous changer. Et nous avons le beau texte que même dans ces situations où est-ce que Dieu ne change pas la situation, nous sommes exhortés quand même de nous approcher de Dieu, d'apporter nos fardeaux à Dieu. Hébreux 4, 15, 16 nous dit ceci, approchons-nous donc, comme Anne a fait, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et en passant, le nom de Anne, la signification de son nom veut dire grâce. Grâce. Alors ce matin, nous pouvons trouver grâce auprès du Seigneur quand nous sommes dans des situations difficiles. Deuxièmement, Anne, non seulement elle nous enseigne d'apporter nos fardeaux à Dieu, mais aussi d'apporter nos enfants à Dieu, apporter nos enfants à Dieu. Si tu regardes le texte encore au verset 11c, elle va dire ceci, « Si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Verset 22, elle va dire ceci, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Voilà, une femme qui a fait un vœu. Dieu exauce sa prière et effectivement, elle garde sa promesse. Elle va amener Samuel, le fils demandé, encore tout jeune, dans la maison de l'Éternel. Il va grandir auprès d'Élie, le souverain sacrificateur. Et vous savez, c'est toute une leçon pour nous. Et j'aimerais en tirer aussi maintenant quelques applications pratiques. Nous qui avons des enfants, vous qui avez des enfants, amenez vos enfants devant le Seigneur avant qu'ils soient nés. Et c'est jamais trop tôt pour commencer à prier pour les enfants. Une fois qu'ils seront au monde, déjà Satan va être à l'œuvre. Le temps, c'est de commencer même avant qu'ils viennent au monde. Et c'est un temps propice pour la prière. Et qui sait qu'est-ce que Dieu peut faire? Comme il a fait avec Samuel, qui est devenu un grand prophète en Israël. Deuxièmement, amener nos enfants au Seigneur lors de leur tendre enfance. Et ne laissez pas cela entièrement à l'école de dimanche. C'est important dans les familles d'avoir un temps de prière avec les enfants, pour les enfants, prier, montrer-leur à prier. Il y a aussi la prière et la parole. Vous avez les belles histoires, et surtout quand les enfants sont jeunes, ils aiment ça entendre les histoires. Alors c'est le temps justement de leur inculquer des principes bibliques à travers les histoires. Dans l'histoire de David et Goliath, je me rappelle quand j'étais jeune, je tripais là-dessus. Et des soirs aussi de Samson et ainsi de suite. Et c'est le temps comme nous avons ici dans Timothée où est-ce que Paul y va justement recommander la mère de Timothée. Il a dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut en Jésus-Christ. Parce que sa mère a pris le temps, quand il était jeune, d'inculquer la parole de Dieu dans ce jeune homme. Alors, amenez les enfants aussi au Seigneur quand ils sont jeunes. Amenez vos enfants aussi quand ils sont ados ou jeunes adultes. Et quand vous maintenant, nous aussi, vous êtes rendus vieux jeux. Et là, vous ne connaissez rien. Les enfants, ils connaissent tout. Je pourrais vous dire que ça peut être un temps difficile, mais aussi ça peut être un temps très enrichissant. Et en élevant moi-même les enfants, pour ceux qui ont les jeunes enfants, c'est un temps pour plus de prières et moins de sermons. Si vous les sermonnez, vous allez les repousser. Vous allez justement aller à l'encontre à ce que vous essayez de faire. Il y a un temps pour chaque chose. Et il arrive parfois dans la vie de certains jeunes, quand ils sont en train de rechercher justement leur identité, ils veulent avoir leur propre croyance. Ils ne veulent pas justement prendre les croyances des parents parce que c'est ça qui était enseigné. Il faut leur donner justement cette liberté-là. Mais en même temps, c'est un temps propice pour prier pour eux et soit un modèle et vivre justement la vérité de l'Évangile. Ça va leur parler plus que 1000 sermons sur la parole de Dieu. Leur vie, la vie d'un parent vécu dans la puissance de l'Esprit va être tout un témoignage pour ces jeunes ados et pour ces jeunes adultes. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, et surtout en amour inconditionnel. Que l'enfant, que l'ado ressente que qu'importe que tu fais, moi je vais toujours t'aimer. Je peux ne pas aimer ce que tu fais, mais je vais t'aimer parce que tu es mon enfant. Et aussi, quatrièmement, amener les enfants au Seigneur quand ils sont eux-mêmes enfants. Et quand ils sentent eux-mêmes, ils ont leurs propres enfants. Et je vous donne un exemple pratique, moi-même. Je suis parent et grand-parent. Et ma mère m'amène au Seigneur. Elle prie pour moi à chaque jour. Puis surtout quand j'apporte la parole, je sais qui téléphoner. Puis ma mère a dit, oui, je vais prier pour toi. Je lui ai parlé ce matin. Puis elle m'a dit, oui, je serai dans la prière pour toi. Alors, elle est toujours en train comme mère pieuse. Et j'honore ma mère ce matin en train de prier pour moi qui suis parent et grand-parent. Il n'y a pas d'âge pour amener nos enfants au Seigneur. Ma chère maman, I say God bless her. Et j'aimerais aussi vous encourager ce matin. Peut-être vous me dites, mais ça fait des années, là, ça fait des longtemps que j'amène mes enfants dans la prière et la situation ne change pas. Que faire? J'aimerais vous encourager ce matin de ne pas relâcher. On nous raconte l'histoire de George Mueller qui a prié pendant plus que 30 ans pour 3 personnes dans sa vie. Et on nous dit qu'il y a une personne qui est venue au Seigneur pendant son vivant. Il y a une personne qui est venue au Seigneur lors de ses funérailles. Et la troisième est venue après sa mort. Il avait prié. Alors, l'apôtre Paul, il peut dire à Timothée, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Alors, vous avez des enfants biologiques, priez pour eux. Vous avez des enfants spirituels, priez pour eux. Vous n'avez pas d'enfants, mais vous pouvez en avoir. Parce que si vous avez des contacts et ils viennent au Seigneur, ils deviennent vos enfants spirituels, vous pouvez aussi prier pour eux. Alors, tout le monde ici peut avoir des enfants et on peut prier aussi pour eux. Et finalement, troisièmement, Anne, si elle était ici ce matin, nous dirait, apportez vos fardeaux au Seigneur. Apportez vos enfants au Seigneur ou toute autre personne. Mais surtout aussi, apportez votre louange au Seigneur. Et Johan aussi a touché sur ce point. Même dans une situation difficile, on peut louer le Seigneur. Et au chapitre 2, j'ai lu juste ce premier verset, mais Anne explose, pas littéralement, là, mais elle explose de louange et de joie devant le Seigneur qui avait exaucé sa prière en disant, « Mon âme se réjouit en l'Éternel. Praise God !» elle dit. Et là, vous l'avez à l'écran, ces jeunes enfants qui est en train de justement démontrer cela. Et quelle théologie dans le chapitre 2. Je n'ai pas le temps de le regarder, mais je vous conseille de le regarder ce matin. Je vais juste sortir. C'est une femme là qui connaît sa Bible. Et donc, cette louange qu'elle offre au Seigneur, voilà les beaux attributs. Comment est-ce qu'elle voit Dieu? Dieu est saint, Dieu est unique, Dieu est le rocher. Dieu est omniscient, elle va dire au verset 3, c'est un Dieu qui sait tout. Dieu est souverain, il abaisse et il élève. Ça, c'est le verset 6-8 du chapitre 2. Dieu est créateur, l'Éternel sont les colonnes de la terre. Dieu est gardien, il gardera les pas de ses bien-aimés. Dieu est juge, l'Éternel jugera les extrémités de la terre. Et Dieu, c'est celui qui fortifie. Il donnera la puissance à son roi. Pourquoi est-ce qu'Anne loue Dieu? Parce qu'elle veut démontrer sa reconnaissance. C'est une femme qui est exaucée et là, elle retourne maintenant devant Dieu pour lui dire merci. Et vous savez, nous sommes exhortés aussi de faire cela dans Psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je t'offrirai une action de grâce et louer l'Éternel. Très bien, très juste de le faire. Alors, quand Dieu nous exauce, apportons nos louanges à Dieu en reconnaissance. Mais apportons aussi nos louanges à Dieu parce que c'est ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il est juste. Psaume 147 dit ici, louer l'Éternel, pourquoi? Parce qu'il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux et il est bien séant de le faire. Et j'espère que c'est ce que vous faites et ce que nous faisons quand Dieu nous exauce. Et il y a un récit très triste dans l'évangile de Luc, prendrai pas le temps d'y tourner. Mais le Seigneur a guéri 10 lépreux. Et il y a juste un qui est revenu pour lui dire merci. Et j'imagine à peine le cœur du Seigneur, parce qu'il a posé une question. Il dit, n'y avait-il pas 10 qui ont été guéris? Et où sont les 9 autres? Où sont-ils? N'est-il pas que ce Samaritain qui est venu pour donner gloire à Dieu? Combien ça a dû peiner le cœur du Seigneur de voir? Il avait fait une grande chose pour ces personnes. Et une personne est revenue pour lui dire merci. Alors, c'est ce que Dieu s'attend de nous. C'est juste pour nous de venir dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour nous. Quelqu'un pourrait dire, mais écoute, je n'ai pas grand-chose pour lequel je peux remercier le Seigneur. Moi, je prie, j'ai des situations difficiles, je porte un fardeau. Ça fait des jours, des semaines, des mois, des années. Je ne peux pas être reconnaissant pour ce que je n'ai pas obtenu. Mais vous savez, vous pouvez toujours louer Dieu parce que David va dire ceci. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et Psaume 113 nous dit ceci, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Alors, qu'importe notre situation, difficile ou facile, nous devrions toujours être en train de louer l'Éternel. Pourquoi? Parce que la louange glorifie Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu nous a créés, pour le glorifier. Et c'est ce que le psaume 50, 23 nous dit, « Celui qui offre pour sacrifice ses actions de grâce fait croire me glorifie. » Et Éphésiens 1, 11 nous dit ceci, « Nous avons été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. » C'est ce que nous devrions faire maintenant. C'est pourquoi Dieu nous a créés pour le glorifier, et c'est ce que nous allons faire pendant toute l'éternité. Et n'avons-nous pas ce matin, qu'importe la situation que nous vivons ce matin, le fardeau que nous portons, de simplement regarder à la croix, comme nous avons fait ce matin lors du repas du Seigneur, et de voir le Christ qui porte nos péchés, le Christ qui meurt pour nous par amour, le Christ qui nous délivre justement d'une éternité de souffrance. C'est croire une légère affliction, comme l'apôtre Paul dit, comparé à tout ce que le Seigneur, de quoi est-ce que tout le Seigneur nous a délivré. Et qu'importe ce que je suis en train de vivre, quand je regarde vers ce qui m'attendait et ce qui m'attend, je peux dire, Seigneur, merci, je te loue parce que tu m'as délivré justement de la mort et l'enfer et tu m'as préparé une place auprès de toi. Juste finir avec un témoignage personnel et une application. On part de louer le Seigneur, qu'importe les circonstances. J'ai grandi à la Barbade. Un de 7 enfants. Mon père, il avait alors 9 bouches à nourrir. Il travaillait à l'époque, son salaire hebdomadaire par semaine, $25. Pouvez-vous imaginer? Alors, nous n'étions pas riches, pour dire, ainsi dire. Mais ce que qui m'a marqué, c'est ma mère qui, malgré les difficultés qu'on vivait, qui faisait monter continuellement vers Dieu des chants de louange et de reconnaissance. Elle a transformé notre humble demeure en salle de concert. Et je me rappelle encore aujourd'hui les chants qu'elle chantait et qui me marquent encore aujourd'hui. Et j'en suis infiniment reconnaissant. Vous savez, le psalmiste a dit ceci, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, Anne nous laisse avec des belles leçons. Apportez vos fardeaux au Seigneur, apportez vos enfants au Seigneur, apportez votre louange au Seigneur. Un dernier point, si vous ne connaissez pas le Seigneur ce matin, apportez vos péchés au Seigneur. Apportez vos péchés au Seigneur. Jean 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a fait un sacrifice incroyable parce qu'il nous aime. Et nous, si nous portons nos péchés et nous mourons avec nos péchés, nous ne pouvons pas aller auprès de Dieu qui est trois fois saint. Alors la solution, Dieu l'a trouvée. Dieu est un Dieu qui est saint et juste, qui doit punir le péché. Mais il est un Dieu aussi d'amour qui aime le pécheur. Et là, il a trouvé un substitut, Jésus-Christ le juste, qui meurt pour nous les injustes, afin de nous amener à Dieu. Mais nous avons une responsabilité. C'est fait. Mais notre responsabilité ce matin, c'est de venir au pied de la croix. Et de dire à Dieu, « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. » Et ça, ça ne laissera pas le Seigneur Jésus-Christ indifférent, cette prière. Et parce qu'il nous aime, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Et si nous nous repentons, et si nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, la parole de Dieu nous dit que nous avons la vie éternelle. Et nous ne viendrons pas en jugement, mais nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, si vous portez encore le fardeau de vos péchés, je vous supplie, avant qu'il ne soit trop tard, d'amener vos péchés au Seigneur. Il va vous donner justement le pardon de vos péchés. Il va vous laver, il va vous purifier. Il va vous donner une place dans son ciel. Et pendant votre vivant, il va vous donner un chant afin que vous puissiez le louer et le remercier et aussi être un outil entre tes mains pour amener d'autres au Seigneur Jésus-Christ. Ma prière, c'est qu'il en soit ainsi pour sa gloire. On va prier. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour qui tu es. Merci d'être celui qui s'implique dans nos vies. Tu n'es pas un Dieu qui est loin. Et on te remercie pour cette belle histoire d'Anne, cette femme qui nous enseigne de si belles leçons. Seigneur, alors prends ta parole et l'applique à nos cœurs afin qu'elle puisse porter fruit pour ta gloire. Et s'il y a quelques-uns parmi nous qui ne te connaissent pas, ô Seigneur, qu'ils puissent déposer le fardeau de leurs péchés au pied de la croix et qu'ils puissent repartir joyeux, reconnaissant parce que Jésus-Christ leur avait lavé, sauvé, purifié de leurs péchés. C'est par nous avec ta bénédiction. Et encore une fois, merci Seigneur pour les mamans. C'est une grâce que tu nous as faite. On va être en reconnaissant. On demande ces grâces au nom de Jésus. Amen.